Oui, bonjour. J'ai un peu de scrupule à prendre le micro parce que moi, je suis pas enseignant, je suis chercheur, Laurent Veillard, laboratoire ICAR. On travaille aussi sur les lycées professionnels en ce moment, dans une perspective peut-être plus didactique. J'avais une question, moi, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que ça correspondait à un rapport au savoir plus favorable à ces couches populaires. En même temps, je vois aussi, moi, par exemple, en bac pro, la diminution forte des temps de travaux pratiques en atelier. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là? Parce que si on est sur une logique d'abstraction et de théorisation plus forte, est-ce qu'on est toujours dans une correspondance en termes de rapport au savoir? Enfin, c'est une question ouverte. Hein.
Oui, tout à fait. J'ai pas, vous imaginez bien que je vais pas vous répondre. Si ce n'est que, quand même, n'oubliez pas qu'il y a 22 semaines de stage.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Voilà. Et que ça leur plaît beaucoup. Alors, ça leur plaît beaucoup. Si la spécialité leur plaît, si l'accueil en stage les satisfait, ça valorise la formation très nettement. Évidemment, si la spécialité ne leur plaît pas, ou si l'accueil en stage leur paraît pas du tout répondre à leur attente, ça fonctionne mal et ça fait l'effet inverse. Mais il y a quand même ces 22 semaines de stage. Par ailleurs, même si la formation a pris une dimension plus théorique, il me semble bien que la logique, alors là pour le coup institutionnelle qui se met en place, c'est de, avec la réforme, vous savez, des STI 2D, c'est de transformer ces STI 2D en une espèce de retour à la filière du bac E qui a existé autrefois, une espèce de bac général à dimension technologique avec une élévation du niveau. Du coup, il y a quand même du côté de la formation bac pro, même s'il y a un accroissement des enseignements théoriques, ça reste quand même le lieu d'un enseignement où il y a une dimension. Enfin, quand vous allez dans un lycée professionnel industriel ou bâtiment, il y a quand même encore de longues heures d'atelier, etc. Et les profs sont en plus très souvent, alors là ça dépend des régions, c'est vrai que ma région est biaisée là-dessus, parce que dans des régions comme ça où il n'y a pas de trop grandes agglomérations, il reste souvent une proximité entre les enseignants d'ateliers ou de disciplines professionnelles commerciales, le chef des travaux et les petites entreprises. Qui fait que, vous voyez, ce lien existe, et donc la gestion des stages est quand même si certains s'endorment dans les baignoires, la gestion des stages est quand même plus facile que dans les grandes agglomérations où, on le sait, les collègues ont plus de mal à établir des relations. Bon, voilà. En même temps, n'oubliez pas que ces générations s'habituent à la scolarisation. Ils sont donc du coup, ça, je pense que ça les gêne moins et que ça reste quand même un rapport à un enseignement qui leur paraît beaucoup plus instrumentalisé, finalisé et qui fait plus sens pour eux que ne le faisait l'enseignement général, je crois quand même. Mais votre question, évidemment, faut se la poser.
Bonjour, moi je suis Karine Bertrand, prof de lettres histoire, et vous avez parlé de passerelles. Donc moi je me réjouis que vous ayez des élèves qui puissent bénéficier de passerelles, parce que moi c'est pas du tout mon cas, et y compris enfin surtout pour les CAP, où là il me semble que c'est un problème dramatique.
J'ai pas parlé des CAP.
Hein. Ouais. Parce que on a des élèves à 16 ans qui obtiennent leur CAP, qui savent qu'ils n'auront pas de travail avec le CAP et qui n'ont rien devant. Aucune, même à l'intérieur de l'établissement, qui n'ont rien devant. Voilà, donc je voulais juste soulever ce problème dramatique d'absence de passerelles.
Tout à fait raison, c'est un des autres effets pervers de la réforme, c'est que clairement ça marginalise encore plus qu'avant une partie du public, celui qui, alors, sachant que vont en CAP, bon alors vous le savez maintenant, très majoritairement des élèves de SECPA, ou de même presque exclusivement, il y a même des corps d'inspection qui nous disent c'est la voie normale maintenant de poursuite d'études pour les SECPA, avec quand même des différences, hein, ça dépend, je sais pas dans quelle spécialité vous...
En tertiaire.
Oui, voilà. Bon. Dans certaines spécialités, des métiers du bâtiment notamment, des métiers de bouche, etc., c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que là, on retrouve les très fortes différences. Il y a des métiers qui ont encore des traditions fortement ancrées sur le CAP, dans lequel le CAP est valorisé. C'est vrai de la coiffure aussi, je crois. Enfin bon, il y a un certain nombre de métiers comme ça. À l'inverse, évidemment, dans le tertiaire. Donc ça pose effectivement la question, cette réforme ne peut pas résoudre, mais qu'aucune réforme ne peut résoudre, je le crains, c'est qu'effectivement, ça marginalise encore plus un public qui donc est composé pour l'essentiel d'élèves de SECPA. Et souvent aussi, il y a des élèves qui choisissent, hein, le CAP. Dans notre région, on en a. D'ailleurs, celui que je vous ai montré, il aurait bien voulu préférer. Hein, ses parents lui disent non, tu vas en bac pro, mais lui, il voulait aller en CAP parce qu'il voulait travailler très vite après les 2 ans. Et dans les élèves qui choisissent, vous avez souvent des élèves qui choisissent en revanche des professions pour laquelle la CAP reste rentable. Vous voyez. Donc il y a une. Ce que ça va isoler, c'est effectivement une proportion d'élèves très faible qui se retrouvent dans des situations socialement dramatiques.
L'absence de passerelle pour les bacs, parce que là, c'est l'inégalité des territoires. Quand on a une formation sur un coin et qu'il n'y en a qu'une, on y reste. Absolument. Et donc, il n'y a pas de place pour éventuellement d'autres élèves qui voudraient tourner.
Tout à fait. C'est une réforme qui, ce que je disais, vous avez raison, qui ne creuse pas que les différences entre disciplines, elle va aussi creuser les différences territoriales. Ça, c'est avec des publics qui ont du mal, évidemment. Je parlais tout à l'heure de ces jeunes filles qui veulent faire art appliqué et qui choisissent donc le bac pro avant, parce que si elles le choisissent, je l'ai dit, c'est notamment parce que les parents n'ont pas les moyens de payer des études à Nantes en étant à Saint-Nazaire. Il y a même des élèves, certains profs m'ont dit, ils veulent pas, je sais pas si vous connaissez un peu Saint-Nazaire, ils veulent pas franchir le pont qui traverse la Loire pour aller travailler au sud, hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc effectivement, c'est en fonction de, mais ça, Marie Durubella l'a très bien montré, hein, en fonction de l'offre de formation, vous creusez ou non des inégalités sociales. On n'a pas parlé non plus des inégalités sexuelles, mais bon.
Et bonjour, Valérie Lenné, j'enseigne en lycée professionnel en tertiaire, et j'arrive de Nantes, hein. Voilà, j'ai été mutée en septembre. Donc ma première remarque est par rapport à ça, c'est la spécificité de la région, moitié privée, moitié publique. Est-ce que ça a une incidence sur votre étude ?
Alors on est allé dans les établissements privés. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais on a fait à peu près un tiers d'établissements privés, un quart. Non, pas de différence.
D'accord. Ma deuxième remarque, c'était par rapport où vous dites que les élèves sont plus jeunes quand ils vont en stage, jeunes aussi dans leur métier d'élève. Puisque moi, ma première réticence, c'était les 2 années de BEP. Pour nous, c'était leur apprendre le métier d'élève. Et en bac pro, on les professionnalisait.
C'est vrai.
Et il n'y a plus ça.
C'est vrai. Oui. Les collègues s'en plaignent, hein, du manque de maturité. Tout à fait.
Et ma troisième remarque, c'était par rapport au stage, où on dit de plus en plus aux élèves de profiter de leur réseau pour trouver des lieux de stage. Et si on parle de catégories socio-professionnelles d'ouvriers, les réseaux sont quand même...
Alors, ça dépend.
Ah.
Ça dépend si c'est le père ou la mère travaille. Par exemple, là, les filles de peinture dont je vous parlais, beaucoup font leur stage avec des copains du père qui sont entrepreneurs, artisans ou qui travaillent dans une entreprise. Vous voyez. Donc il peut y avoir un réseau social. C'est ce que dit très bien Gilles Moreau, d'ailleurs, sur l'apprentissage. Hein. Il peut y avoir une valorisation de réseaux sociaux qui permettent, à l'inverse... Oui, je vous en prie. Oui. Alors, en tant que chercheur, je ne m'immiscerai pas dans ce débat qui est sociologiquement intéressant d'ailleurs. Hein, je ferai simplement observer que ça s'ajoute aux contraintes de travail nouvelles que pose le bac pro. Ça, c'est objectif. La réforme du bac pro en 3 ans, notamment l'individualisation.
On va passer à la question suivante.
Oui, alors, il y a une rupture entre les deux questions parce que moi, je revenais sur le CAP et le bac pro. Il y a effectivement des métiers où il n'y a pas de bac pro. Donc actuellement, il n'y a que le CAP.
Il n'y en a plus beaucoup.
Hein. Il y en a. Pardon. Donc, vous avez cité à plusieurs reprises la coiffure. La coiffure fait partie du secteur d'activité où il n'y a pas de bac pro. Et la poursuite,
il y a un brevet,
c'est le brevet professionnel qui ne se fait qu'en alternance et qui est indispensable pour ouvrir un salon de coiffure. C'est tout de même le seul métier... depuis la loi de 46 qui impose d'avoir un brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure. Et ces métiers-là, il y a une réticence tout de même de la profession pour aller vers le bac pro et ensuite le BTS qui, en fait, ne sera fait que pour les chaînes de coiffure et qui ne correspond pas à la réalité du salon de coiffure, du quartier, etc. Donc, il faut voir quand même que dans l'ouverture des bacs pro, il y a quand même aussi la profession qui fait que
complètement
elle met un barrage ou pas
complètement
à cette poursuite. Et ces jeunes-là, eh bien, sont confrontés quand même à une sorte de discrimination. Ils n'iront jamais en BTS ou des poursuites d'études post-bac.
Non, parce qu'ils construisent tout leur projet sur le fait de s'installer à leur compte. Alors bon, ce que vous dites me fait une réponse rapide là-dessus. Il y a une étude du CEREC il y a quelques années qui a largement montré que, effectivement, selon les professions, chaque branche professionnelle a tendance à organiser une espèce de logique de diplôme en utilisant plutôt la filière CAP, par exemple, brevet technicien, BEP, bac pro, qu'elles, parfois, en restent au BEP, parfois font bac pro BTS, etc. C'est-à-dire, en fonction de la structure, des structures d'emploi, et puis en fonction de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a certaines branches professionnelles qui sont dominées par les grandes entreprises, et les logiques des grandes entreprises ne sont pas du tout les logiques des PME. D'autres branches professionnelles sont au contraire traditionnellement artisanales, etc. Donc vous avez effectivement des, après, au niveau de de l'entrée dans l'emploi, des configurations très variables. C'est ce qui rend l'étude des lycées professionnels complexe. C'est que dès qu'on veut essayer d'envisager la totalité, ça devient très compliqué.
Pierre Billet, Université Joseph Fourier. Que pensent les collègues qui sont dans les lycées et le corps administratif aussi, les proviseurs, chefs des travaux, sur ce pourcentage de poursuites d'études? Ont-ils les moyens d'informer les jeunes en question? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ben, c'est un peu
une réalité que vous avez mis en lumière. Merci.
C'est un peu ce que j'ai suggéré à un moment quand j'ai parlé des entretiens avec les profs et que j'ai les extraits que j'ai. Ils sont, alors, encore une fois, selon les spécialités. Hein, on peut pas généraliser parce que le prof de génie climatique, voilà, je cherchais le mot, le froid. Et encore, attention, on mélange, vous le savez, aujourd'hui, le génie climatique froid et chaud, ce qui est considéré comme une insulte par les gens du froid, hein, mais enfin bon, ne revenons pas sur ces petits détails amusants des échelles de nobilières à l'intérieur des métiers. Mais bon, bref, selon les métiers, évidemment, leur approche va être différente parce que ils savent que dans certaines professions, le BTS est accessible, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a peu de gens qui vont au BTS, etc. Dans d'autres, ils savent au contraire que c'est bouché. Et en même temps, ils sont travaillés par cette contradiction interne propre à leur identité que j'ai essayé de vous mettre en évidence, qui est à la fois le désir de faire réussir les élèves, hein, et en même temps le désir d'empêcher les plus faibles de sombrer. Donc ils sont pris dans cette contradiction. J'ai le sentiment qu'ils ont un discours globalement, ceux qu'on a rencontrés. Alors ceux qu'on a rencontrés, c'est ceux qui ont accepté d'être interrogés. Ceux qui ont accepté d'être interrogés, c'est donc ceux qui sont souvent le plus engagés dans une vision assez militante de leur métier. Donc hein, il faut voir. Mais j'ai le sentiment, et c'est ce que tendrait à montrer la rationalisation progressive des progrès des projets des élèves, je pense qu'ils ont un discours assez rationnel là-dessus. Ils sont relativement bien informés de l'état du marché du travail. Ils sont souvent, encore aujourd'hui, d'anciens professionnels, pas toujours, mais quand même assez souvent. Et donc, je pense qu'ils tiennent un discours qui est un discours de rationalisation du projet, c'est-à-dire qu'ils encouragent ceux dont ils pensent qu'ils peuvent le faire. Ils essayent de prévenir ceux dont ils pensent que ça va être difficile. Ils sont très attachés à la réussite du bac. Voilà, il faut savoir, hein, que c'est quand même des gens, les enseignants de lycée professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, sont quand même dans une identité professionnelle très différente de ce que vous trouvez dans les lycées généraux et même technologiques. Hein. C'est des gens qui sont vraiment très souvent très attachés à la réussite globale des élèves, etc. Donc ils font de la formation, ils font beaucoup d'informations. N'oubliez pas non plus qu'ils sont en relation assez directe avec les entrepreneurs. Hein, donc ils savent un peu ce qui se passe, etc. Même si le corps d'inspection leur reproche parfois de ne pas assez s'occuper des stages. Mais c'est une autre question. Voilà, donc je pense, vous voyez, de ce point de vue-là, ce qui caractérise beaucoup les profs de lycée professionnel, c'est à la fois de résister beaucoup aux réformes et de les appliquer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire d'avoir de subir une pression très forte, et elle est réelle. N'oubliez pas qu'au quotidien, les élèves de lycée professionnel, enfin, je pense que sont des élèves épuisants. Globalement, j'en ai des souvenirs très précis. Donc forcément, ils sont dans une difficulté quotidienne à affronter ces élèves, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir à ces élèves d'être ce qu'ils sont, et donc on essaye de les aider. Donc ils sont pris là-dedans, et souvent ça se traduit par cette volonté d'essayer de les amener au projet qui correspond le mieux à ce qu'ils pensent être leurs élèves. Mais parfois on se trompe, hein, dans ces cas-là. Parfois on sous-estime ou on surestime.